Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, retour sur le meurtre du jeune Ilan Halimi dans le sud de la banlieue parisienne en février 2006. Cette affaire, vous la connaissez sûrement sous son nom d'emprunt, celui qui a le plus circulé dans la presse lorsqu'elle a été rendue publique pendant l'hiver 2006, celle du gang des barbares. Un voyage en effet au bout du crime. Celui d'un groupe d'individus originaires de même cité de la banlieue parisienne, sans foi ni loi, et dont le chef avait mis au point un plan diabolique. Enlever et séquestrer un jeune homme pour obtenir de sa famille une importante rançon. Une histoire tragique, épouvantable, comme son épilogue, Ilan Halimi sera torturé à mort. 24 jours d'enfer, qui à juste titre ont soulevé beaucoup d'émotions en France avec un sentiment de dégoût, d'horreur face à cette barbarie, la violence gratuite, l'argent facile et l'antisémitisme. Ilan Halimi était juif et c'est précisément ce qui a motivé ses ravisseurs. 60 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, qu'un jeune homme ait pu être tué parce qu'il était juif, a laissé et laissera dans ce pays une trace indélébile et qui montre que lorsque le monstre antisémite semble endormi, il ne dort que d'un œil. La preuve, une nouvelle étude cette semaine de la Fondation pour l'innovation politique dévoile l'ampleur du phénomène en France. Plus d'une personne sur deux de confession ou de culture juive indique avoir été insultée en raison de sa religion. Notre invitée aujourd'hui, Caroline Toby, avocate pénaliste, elle a défendu Ruth Halimi, la mère de Ilan. Elle témoigne de son expérience dans le livre de Julia Minkowski et Lisa Mignoli, « L'avocate était une femme, le procès de leur vie », thématique à laquelle nous consacrons une série depuis vendredi dernier. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyenne Guyen, Jérôme Chélius et Marion Lelay.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Lundi 13 février 2006, commune de Sainte-Geneviève-des-Bois, département de l'Essonne. En cette matinée d'hiver, il règne dans les rues de la commune un silence de plomb que seuls les bourrasques de vent froid viennent interrompre par à-coup. Sur la départementale 25, une voie à double sens située en contrebas le long de la voie de chemin de fer qui traverse la commune, une automobiliste est intriguée par la présence d'un corps qui semble être accroupi juste derrière le grillage qui protège l'accès aux rails. Elle appelle aussitôt la police. À 8h30, une patrouille avertie par radio se rend sur place. À bord du véhicule, les deux gardiens de la paix remontent la route à faible allure, scrutant le bas-côté d'un œil attentif. Mais très vite, ils doivent se rendre à l'évidence. Il n'y a rien d'autre que des branches, du feuillage, du bois mort, autrement dit, rien d'anormal. Les policiers rappellent aussitôt le central, qui lui-même rappelle la conductrice. Mais celle-ci confirme, et elle confirme avec force ce qu'elle a vu. Alors les policiers font demi-tour, redoublant d'attention sur le moindre élément qui pourrait être suspect, là, sur l'accotement. Quelques centaines de mètres plus loin, à leur grande stupéfaction, un peu en hauteur de la route, contre le grillage vert qui empêche l'accès aux rails, coincé au pied d'un talus, un corps est là. Les deux policiers descendent de leur véhicule pour continuer à pied. L'un d'eux raconte la suite.
De la route, on distinguait une fesse, une jambe et le dos d'un individu qui semblait être allongé sur le côté droit. En nous approchant, on a découvert que la personne prostrée était gravement brûlée, sa peau pelée sur tout l'arrière du corps. De prime abord, il nous a semblé que c'était un homme d'une trentaine d'années, voire moins, de type européen. Il était dans un sale état. Le plus étonnant est qu'il avait les deux mains menottées devant lui, mais aussi un bâillon de scotch au niveau du cou et un au niveau du front, comme si on lui avait recouvert la tête de ruban adhésif. Son crâne, lui, était rasé avec des cicatrices apparentes et une entaille importante juste en dessous du cou. Comme il ne bougeait pas, on a pensé qu'il était mort. Et puis mon collègue s'est approché en escaladant le petit muret et a constaté qu'il respirait encore, faiblement. À notre contact, il est devenu soudain agité, il gémissait, il était en état de choc. On n'arrivait pas à y croire. Je me suis alors précipitée à la voiture pour demander qu'on nous envoie les secours.
Arrivé dans les minutes qui suivent, les pompiers ne peuvent que constater l'état critique dans lequel se trouve le jeune homme. Ils lui prodiguent les premiers soins, puis tentent de le transporter en urgence vers l'hôpital Cochin, dans l'unité réservée aux grands brûlés. En vain. L'homme, dont le cœur a déjà cessé de battre plusieurs fois, vacille tel un funambule qui se prépare à tomber, courageux mais déjà perdu dans sa chute. À son arrivée à l'hôpital, à midi, on ne peut que constater sa mort. L'autopsie du corps révèle immédiatement que la victime a subi de multiples traumatismes. Ecchymoses, éraflures, coupures profondes et surtout des brûlures superficielles et profondes sur près de 60% du corps. Des brûlures qui sont pour les médecins la cause certaine de la mort du jeune homme. Puis on relève les mesures et les caractéristiques du corps. 1m71, 65 kilos, ses os sont ceux d'un jeune d'une vingtaine d'années. Malgré une tête défigurée, on distingue encore ses yeux marrons. Des policiers de la brigade criminelle du 36 quai des Orfèvres, qui agissent dans le cadre d'une commission rogatoire, se présentent au centre de médecine légale d'Evry, où a été rapatrié le corps. Ils emportent avec eux des échantillons d'ADN pour une comparaison génétique, dans le cadre d'une affaire sur laquelle ils enquêtent, celle d'un jeune homme enlevé à Paris, séquestré depuis le 21 janvier, et dont on recherche toujours activement la trace. Le lendemain, le résultat des analyses ADN arrive. Le corps retrouvé est bien celui d'un jeune du nom d'Ilan Halimi, celui précisément que recherchent les hommes du 36. Ici s'écrit de façon lugubre la fin de 24 jours de traque, 24 jours d'espoir et 24 jours de calvaire pour la famille Halimi et aussi pour le 36 quai des Orfèvres, d'une certaine manière. Tout a commencé dans la nuit du 20 au 21 janvier à Paris. Ilan Halimi, 23 ans, vendeur dans une boutique de téléphonie mobile à Paris, disparaît avant que sa famille ne reçoive, le lendemain, des messages menaçants par mail pour obtenir une importante rançon. Contactés par les parents, les policiers de la brigade criminelle située au 36 quai des Orfèvres mettent sur pied une petite cellule opérationnelle composée de deux négociateurs et d'une psychologue pour accompagner le père de la famille dans ses pourparlers avec les ravisseurs. Une cinquantaine d'entre eux appartenant à la crime sont mobilisés sur cette affaire, le but étant de retrouver Ilan et de mettre ses kidnappeurs hors d'état de nuire. Mais les policiers vont très vite déchanter. Après plusieurs jours d'investigation, ils doivent se rendre à l'évidence, ils ont mis les pieds dans une affaire qui ne ressemble à aucune autre, hors norme, comme on dit, oui, hors norme. Par les revendications financières des ravisseurs, complètement démesurées au vu de la condition sociale de leur otage. Ilan est un jeune vendeur de téléphone, sans économie, ses parents, divorcés, n'ont pas de patrimoine. Hors norme aussi, par la violence verbale et le harcèlement des ravisseurs. Près de 40 appels par jour en moyenne, provenant de cabines téléphoniques disséminées un peu partout dans Paris. Au total, ce ne sont pas moins de 700 échanges avec les ravisseurs que les policiers vont enregistrer en l'espace de 24 jours. Il y a aussi ces photos envoyées par mail sur lesquelles l'on voit Ilan être torturé. Il s'agit de convaincre les parents de payer la rançon. Hors norme, enfin, le scénario de la capture d'Ilan. Une méthode que le groupe de ravisseurs avait déjà tenté de mettre en œuvre, mais sans parvenir à ses fins, comme l'explique le journaliste de France Inter, Sébastien Logénie.
Une jolie blonde, les cheveux mi-longs, au visage fin, mesurant près d'1m65, c'est le portrait robot d'une des trois jeunes filles qui sert d'appât à ce groupe de kidnappeurs. L'approche se fait toujours de la même façon, par la séduction. Une jolie jeune fille aborde un jeune homme, ou l'inverse. Le profil des victimes, en revanche, est à chaque fois différent. Vendeur, commerçant, producteur ou maquettiste. La première tentative recensée par la criminelle remonte au mois de décembre. Un jeune vendeur est abordé dans un magasin, mais lui a refusé les avances de la jeune fille. Puis c'est au tour d'un père de famille dont le fils est producteur de disques. La fille, cette fois, se fait passer pour une chanteuse. Elle appelle au domicile du père qui finit par accepter une rencontre. Il se retrouvera kidnappé dans un parking par au moins trois hommes et ne doit son salut qu'à des passants. La dernière victime n'aura pas cette chance. Il disparaît le 21 janvier dernier. Quelques jours plus tôt, ce vendeur de portable est abordé par une jolie maghrébine. Là aussi dans son magasin. Pendant les trois semaines de sa séquestration, les ravisseurs vont sans cesse changer de revendication, passant de 450 000 à 100 000 euros de rançon, passant de la place du Châtelet à Bruxelles pour la remise de rançon. Rendez-vous à chaque fois avorté.
Et cette dernière victime, c'est Ilan Halimi. Après presque deux semaines de négociations et une dernière tentative d'entrevue encore une fois avortée, les policiers conseillent au père d'Ilan de couper toute communication avec les ravisseurs, espérant que ceux-ci vont se décider à relâcher le jeune homme. Mais pour toute réponse, le gang de kidnappeurs va frapper, torturer et tenter de tuer son otage. Ainsi, ce 13 février, lorsqu'on retrouve le corps d'Ilan Halimi, l'affaire prend une toute autre dimension. Il s'agit désormais d'un meurtre, froid, abject. Les policiers du 36 ont très peu d'éléments pour tenter d'identifier le groupe de kidnappeurs, comme le relève le procureur ou journaliste. Il y a une photo, certes, celle d'un homme de type africain, vêtu d'un survêtement, le visage masqué par une écharpe. Il se rend dans le cybercafé pour y envoyer un mail au père d'Ilan. Puis il y a le portrait robot d'une des filles qui a déjà joué par le passé le rôle d'appât pour le groupe. Mais finalement, pas grand-chose pour la police, à première vue. À première vue seulement. Car en vérité, cette étape de l'enquête va se révéler décisive pour la suite. En effet, le lendemain matin, une jeune femme blonde, répondant au prénom d'Audrey, et dont la description correspond au portrait robot, se rend d'elle-même au commissariat de Montrouge. Face aux policiers, elle se met à table. Elle raconte toute l'histoire. Oui, elle est bien la fille sur le portrait robot. Oui, elle a fait partie de ce groupe d'individus que recherche la police. Puis elle s'explique. C'est son petit ami qui l'a recrutée. Bon, sa mission était simple. Séduire des hommes dans les boutiques du boulevard Voltaire, les amener dans un lieu déterminé où ils seraient enlevés en échange d'une rançon. Seulement, après deux essais infructueux de séduction, elle est remerciée par le groupe. Elle ajoute que ce qu'elle cherchait, selon ses propres mots, c'était un plan thune pour se faire un peu d'argent, et vice-versa, rien d'autre. Dans les heures qui suivent, son petit ami est interpellé. Il avoue avoir été le geôlier d'Ilan Halimi, et il balance tous ses complices, dont leur chef. Le 17 février, à la cité du Tertre de Bagneux, à une dizaine de kilomètres au sud de la capitale, les policiers du 36, accompagnés de renforts des unités spéciales du GIPN, le groupe d'intervention de la police nationale, font une descente et interpellent 13 personnes âgées de 17 à 32 ans. Elles sont toutes placées en garde à vue. C'est un petit groupe très hétéroclite, mais très organisé, comme l'explique le procureur de la République, Jean-Claude Marin.
Ce que l'on sait, c'est qu'il semble qu'il y ait eu dans ce groupe au moins trois tâches assignées à des membres différents. Il y avait les appâts, c'est la jeune femme, qui était chargée donc d'attirer les cibles potentielles dans un traquenard. Il y avait un groupe qui était chargé de l'enlèvement, à proprement parler. Il y avait ensuite les geôliers, qui était sans doute le groupe le plus nombreux, puisqu'ils ont dû se relayer pendant les 24 jours. Et puis, un, deux, ou peut-être davantage, individus chargés des contacts avec la famille et de l'envoi des SMS et de l'envoi des demandes de rançon. Le profil de celui que nous recherchons activement et qui se fait appeler le chef des barbares dans sa cité est un profil inquiétant. C'est un profil d'un garçon d'une extrême violence, spontanée et gratuite, d'un garçon qui n'a aucune limite, aucun frein. C'est donc quelqu'un de potentiellement très dangereux.
Et l'homme dont parle le procureur Marin, qui s'est fait appeler le chef des barbares, répond en réalité au nom de Youssouf Fofana. Il s'agit d'un franco-ivoirien de 25 ans, dont le procureur présente face aux caméras une photo récupérée lors des perquisitions. On peut y apercevoir cet homme, de grand gabarit, crâne rasé, léger collier de barbe. Puis le procureur de la République ajoute qu'à la vue des premières auditions, c'est bien l'argent qui semble être le mobile de cette affaire. De leur côté, les policiers du 36 reconstituent au fil des interrogatoires le puzzle de l'enlèvement et du meurtre d'Ilan Halimi. Et leur priorité est bien évidemment de débusquer Fofana, animal sanguinaire en cavale, devenu l'ennemi public numéro un, une traque qui, on va le voir, les fera voyager. Singing them to people like you. 21 février 2006, Paris, Assemblée nationale, séance de questions gouvernement. Il est 14h45. Dans la salle des pas perdus, au cœur du Palais Bourbon, plusieurs députés conversent. Les mines sont graves. Voilà une semaine en effet que l'affaire de l'enlèvement et du meurtre d'Ilan Halimi fait la une. Et le principal suspect dans l'affaire, Youssouf Fofana, est toujours activement recherché. Mais ce qui nourrit maintenant le débat, ce sont les motivations qui ont poussé à un tel crime. Il se trouve que la veille, lors du dîner annuel du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, le Premier ministre de l'époque, Dominique de Villepin, avait jeté un pavé dans la mare en affirmant que le meurtre d'Ilan Halimi aurait été guidé par le spectre de l'antisémitisme. Quelques minutes plus tard, interrogé à ce sujet dans l'hémicycle, le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, confirme, et c'est avec une force réelle qu'il confie son sentiment.
La vérité, c'est d'abord que 6 personnes ont été approchées, entre guillemets, pour faire l'objet d'une tentative d'enlèvement. Sur les 6 personnes, la vérité, c'est que 4 étaient de confession juive. La vérité, c'est que ces voyous ont d'abord agi pour des motifs crapuleux et sordides, l'argent, mais qu'ils avaient la conviction, entre guillemets, que les juifs ont de l'argent et que si ceux qui l'enlevaient n'avaient pas d'argent, sa famille et sa communauté seraient solidaires. Cela s'appelle de l'antisémitisme par de l'amalgame. Et il n'est pas besoin d'ergoter davantage. Cette vérité, me semble-t-il, ne doit susciter ni amalgame, ni haine, ni crainte. Parce qu'il ne manquerait plus qu'en plus de la barbarie, il y ait l'incompréhension, l'intolérance et le racisme.
Et le ministre de l'Intérieur ajoute que des documents de propagande, certains pro-palestiniens et d'autres à caractère salafiste, comprenez ici des écrits manifestes d'un islam radical, ont été retrouvés lors des perquisitions au domicile des individus soupçonnés. Certes, le Premier ministre et son ministre de l'Intérieur s'appuient tous deux sur le fait que la juge d'instruction en charge de l'affaire a retenu la circonstance aggravante de crimes commis en raison de l'appartenance à une religion. Mais pour l'instant, la justice n'a pas délibéré sur cette question. La classe politique, au contraire, met en avant le caractère antisémite indéniable, selon elle, de cette affaire. Ainsi, en fin d'après-midi, une délégation du CRIF, accompagnée du beau-frère d'Ilan Halimi, est reçue place Beauvau par Nicolas Sarkozy, qui leur expose les avancées de l'enquête. À la sortie de cette rencontre, Serge Klarsfeld, présent au titre de conseiller du président du CRIF, s'exprime au micro de France Inter. Pour lui, la nature du meurtre du jeune Ilan ne fait aucun doute.
Du point de vue du ministre, comme du point de vue de ceux qui l'ont écouté, c'est un acte qui est tout à fait antisémite, sans aucune réserve là-dessus. L'association du cliché riche et juif suffit. Hein, quand le Moujik tuait les juifs il y a 100 ans, c'était un acte antisémite. Quand pour des raisons diverses, les nazis tuaient des juifs, c'était un acte antisémite. Quand les gens se taisent alors qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe, mais qu'ils se taisent parce que c'est un juif, c'est de l'antisémitisme. Donc il n'y a pas de doute là-dessus, et il faudrait savoir si la gangrène est profonde et si elle est générale, ou bien si dans les cités en tout cas, ou si c'est limite. En tout cas, c'est je veux dire, par rapport à Carpentras où c'était un mort qu'on avait déterré, ici c'est un vivant qu'on a envoyé dans la tombe.
Au même moment, bien loin des démarches partisanes, de l'agitation médiatique et politique, les policiers du 36 sont toujours à pied d'œuvre pour arrêter Youssouf Fofana, le chef du gang des barbares. Et ils sont près du but. Persuadés que Fofana se cache en Côte d'Ivoire, deux policiers de la brigade criminelle sont sur place depuis plusieurs jours. Ils diffusent le portrait du fugitif dans tous les commissariats locaux et surtout au niveau des zones de transit, aéroports, ports, gares routières. Ils rencontrent aussi leurs homologues de la police judiciaire ivoirienne pour que tout soit mobilisé. Et dans la nuit du 22 au 23 février, on apprend que Youssouf Fofana a été arrêté lors d'un banal contrôle routier effectué par la police dans un quartier populaire d'Abidjan. L'individu a été confondu par son signalement sur l'avis de recherche. Sur place, Hervé Bras de l'AFP raconte l'arrestation et les premières heures d'interrogatoire de celui qui était jusqu'alors l'homme le plus recherché de France.
Il a été conduit immédiatement dans les locaux de la police judiciaire, en centre-ville d'Abidjan, et là, son audition a commencé aux environs de 2h du matin par les enquêteurs français. Apparemment, selon des policiers ivoiriens qui ont pu assister à l'interrogatoire, il est au début agité et peu coopératif. Et puis, il a flanché, visiblement, pour deux raisons. Hein, parce que la police ivoirienne menaçait d'accuser de complicité les personnes avec lesquelles il était arrêté. Et une jeune femme qui figurait parmi les personnes avec lesquelles il était arrêté a faim un moment de crier. Ils l'ont mis sous les fenêtres de la pièce où était Fofana. Elle a fait semblant de crier à l'initiative des inspecteurs ivoiriens. Et visiblement, ça a perturbé Youssouf Fofana qui a flanché et s'est mis à table. Il reconnaît avoir mis la victime dans sa voiture, être allé dans les bois. Bon, il a reconnu l'avoir tué, effectivement. Il aurait même employé le mot de égorger avant de revenir sur ce thème. Puis voilà.
Face aux policiers français, Fofana répète cet incroyable aveu. Il ne comprend pas pourquoi la famille n'a pas payé. Puis il explique que cette idée, celle d'un enlèvement, il l'a eue lors de son premier passage en prison en 2005, quand il était incarcéré pour vol à main armée. C'est en sortant qu'il a décidé de constituer une équipe qui pourrait monter le coup. Il explique avoir recruté des jeunes et jolies filles dans sa cité de Bagneux pour appâter les victimes et des garçons pour faire les geôliers. Et là, il explique qu'il n'a pas choisi un juif par hasard, car c'est une communauté qui a de l'argent et qui est solidaire, dit-il. Juif, donc riche. L'amalgame s'est logé dans l'esprit de Youssouf Fofana, comme dans d'autres, hélas. Oui, Fofana voulait de l'argent. Oui, il pensait que les juifs en avaient, et donc il s'est attaqué à eux. Dans le dictionnaire, au présent comme au passé, cela s'appelle antisémitisme. Dans son éditorial de la première semaine de mars pour Le Nouvel Observateur, Laurent Geoffrin livre une interprétation lourde de sens sur la situation. Il écrit « Certes, le crime du gang des barbares n'est pas que raciste, il est avant tout financier, mais devons-nous attendre pour nous émouvoir qu'un crime soit labellisé à 100% antisémite ? 60 ans plus tôt, pendant la Seconde Guerre mondiale, des Français ont dénoncé les Juifs pour leur prendre leur appartement. Tout le monde disait alors que l'argent était le vrai mobile. » Mais qui peut honnêtement croire que sous Vichy, quelqu'un les aurait accusés d'antisémitisme ? Et Laurent Geoffrin conclut de façon laconique « Ces ergotages ont un résultat principal, faire oublier la montée générale du racisme dans les banlieues françaises, dont l'antisémitisme est l'une des manifestations les plus préoccupantes. » Pendant ce temps, à Abidjan, les interrogatoires se succèdent pour Youssouf Fofana. Et ce dernier se montre de plus en plus désinvolte dans les réponses qu'il lance aux policiers, un peu comme s'il ne semblait pas conscient de la gravité de sa situation et des accusations de torture et de meurtre qui planent sur lui. Une désinvolture que l'on retrouve dans cette étonnante entrevue qu'il accorde à un correspondant de la chaîne iTélé dans les bureaux de la police judiciaire ivoirienne.
Racontez-nous l'enlèvement de Ilan. Qu'est-ce que vous avez à dire à la famille d'Ilan ?
Que leur enfant ne s'est pas tué.
Et qu'est-ce que vous avez à dire à votre mère ?
Je n'ai pas de mot à dire à ma mère.
Pourquoi votre gang se fait appeler le cerveau barbare ? Le gang des barbares.
Le gang des barbares ? Un gang, c'est un grand mot. Et le gang des barbares, je pense que c'est par rapport à la violence. La violence, et en fait, le gang des barbares, moi je pense que personnellement, c'est une victimisation d'une situation qui est déjà déplorable. Je sais que si la guillotine serait là, je pense que c'est possible que on aurait pu la suggérer pour moi.
À ce moment-là, Fofana est persuadé qu'en revendiquant sa nationalité ivoirienne, il va s'en sortir, qu'il va pouvoir échapper à une possible extradition. Seulement, du côté de la présidence à Abidjan, Laurent Gbagbo ne souhaite pas froisser Paris et autorise donc les policiers français à ramener Fofana rapidement en France où il pourra y être jugé. Le lendemain à Paris, dans la synagogue de la rue de la Victoire, a lieu une cérémonie de recueillement à la mémoire d'Ilan Halimi. Elle restera à jamais marquée par l'union sacrée de toute la classe politique et de la population face à un meurtre au caractère antisémite. Le chef de l'État en personne, Jacques Chirac, est arrivé avec un chapeau noir sur la tête, accompagné de son premier ministre Dominique de Villepin qui lui porte une kippa. Ils ont fait le déplacement, ils pénètrent dans la synagogue. Dans l'assemblée, on retrouve également des membres du gouvernement, mais aussi d'autres personnalités telles que Ségolène Royal, Dominique Strauss-Kahn ou encore François Bayrou, ainsi que le recteur de la mosquée de Paris, Dalil Boubaker, et même Monseigneur 23 pour l'Église catholique. Tous assistent à la cérémonie du Kaddish, la prière des morts, dans un silence qui n'est interrompu que par les pleurs et les larmes de la famille et des amis du jeune Ilan. Dans les rues adjacentes, agglutinées derrière des barrières, plusieurs centaines de personnes, juives ou non, se sont rassemblées pour montrer leur solidarité à la famille d'Ilan. En fin d'après-midi, Florence Paracuelos de France Inter s'entretient par téléphone pendant quelques minutes avec Ruth Halimi, la mère d'Ilan.
Je me dis que Ilan, mon fils, ne sera pas mort pour rien et que de toute façon, il va veiller à ce que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Et qu'il y ait surtout une justice appropriée aux monstruosités qu'ils lui ont fait, qu'ils ont fait à un jeune homme de 23 ans qui n'avait demandé qu'à vivre.
Est-ce qu'il y a une forme de soulagement de votre côté de savoir que...
Écoutez, je vais vous dire, madame, tous autant qu'ils sont, que ce soit des filles ou des geôliers ou de ceux qui ont joué un rôle quelconque, ils sont tous autant coupables. Il est évident que ce Fofana est quelqu'un de très dangereux et qu'il faut qu'il soit naturellement, qu'il y ait une justice à son encontre à la mesure de ce qu'il a fait.
Eh bien, cette justice interviendra 3 ans plus tard lorsque s'ouvrira le grand procès de l'horreur, celui du meurtre d'Ilan Halimi. Paris, cour d'assises spéciale pour mineurs, 29 avril 2009. C'est dans un climat évidemment tendu que s'ouvre le procès sur l'enlèvement, la séquestration et l'assassinat d'Ilan Halimi. Les débats se tiennent à huis clos vu l'aspect sensible du dossier. Dans la salle d'audience et surtout à l'extérieur, dans les couloirs du palais, malgré un nombre de gendarmes considérable, l'ambiance est électrique. Il faut dire que ce procès est évidemment celui d'un enlèvement et d'un meurtre odieux, mais il est aussi celui de l'omerta dans les cités. Oui, une loi des silences qui a probablement contribué au forfait des kidnappeurs. Enfin, ce procès est également celui de l'antisémitisme et beaucoup attendent de la cour qu'elle tranche sur ce sujet. Dans le box des accusés, ils sont 27, 18 garçons et 9 filles, des blancs, des blacks, des beurs, d'origine africaine, maghrébine, iranienne, portugaise. Tous ont en commun le fait d'être français et d'habiter dans la même cité de Bagneux. Parmi eux, on retrouve les auteurs du rapt, les geôliers, les appâts, les logisticiens et tous ceux qui étaient au courant, comme le père d'un des ravisseurs ou le gardien de l'immeuble qui a prêté l'appartement où se sont déroulés les sévices. Tous se sont tus. Mais celui sur lequel tous les regards se tournent, c'est bien sûr le cerveau des barbares, si je puis dire. Youssouf Fofana, celui qu'on a traqué jusqu'en Côte d'Ivoire et qui se retrouve désormais assis sur le banc des accusés derrière une paroi de verre. D'emblée, l'ancien ennemi public numéro 1 affiche la couleur en criant dans la salle « Allah vaincra !» défiant les juges et l'assistance qui le regardent médusés. Puis quand on lui demande la date, et lieu de naissance, il réplique 13 février 2006 à Sainte-Geneviève-des-Bois. Sa date de naissance, il a fait correspondre à la date et au lieu de la mort d'Ilan Halimi. Quelle est donc cette bête qui n'a aucune limite sociale? Pour les proches d'Ilan Halimi, c'en est trop. Le président est obligé de taper du marteau sur la table pour calmer l'assemblée. Le principal accusé continue d'asséner ses propos antisémites et révèle enfin sa vraie personnalité, prouvant un peu plus que le costume qu'on voulut faire porter, celui du tueur d'un juif, lui va comme un gant. Puis, lors des jours qui vont suivre, les révélations vont se succéder, choquer un peu plus tous ceux qui sont présents dans la salle d'audience. On apprend ainsi par l'un des co-accusés les conditions de détention d'Ilan. Nu, la tête entourée de rubans adhésifs d'emballage, avec un seul petit espace vide au niveau de la bouche pour respirer et y laisser passer une paille qui servait à le nourrir. Il a passé 24 jours enfermé dans un appartement de la cité, puis dans une cave, où il a été passé à tabac plusieurs fois par ses geôliers qui trouvaient le temps long, victime aussi d'un lynchage régulier à coups de cutter. Puis l'ancien geôlier raconte « Tout s'est terminé le soir où Fofana est venu le chercher. » Il l'a mis dans le coffre de sa voiture et l'a emmené. Il m'a expliqué par la suite, dit le co-accusé, qu'il l'avait conduit dans les bois, dans les Yvelines, qu'il l'avait sorti du coffre, lui avait tranché la gorge et l'avait aspergé de white spirit avant de l'incendier sur place. Il m'a dit « Ça a fait une grande flamme. » Et je suis parti. L'assemblée choquée, la famille Halimi effondrée. Elle le sera encore plus en apprenant de la bouche d'une des policières de la brigade scientifique que Ilan n'est pas mort à l'endroit précis où Fofana l'a incendié. Non, il est mort 167 mètres plus loin. Dans ses derniers espoirs de survie, malgré des entailles profondes, de graves brûlures sur plus de 60% du corps, il a rampé, s'est traîné comme il a pu, traversant même les voies de RER, avant de s'effondrer définitivement de l'autre côté, contre le grillage, là où les policiers l'ont retrouvé. Comble de l'horreur, les policiers, à leur tour appelés à la barre, expliquent que Youssouf Fofana continuait de harceler, de menacer de mort le père d'Ilan par téléphone après que le jeune homme a été retrouvé le long de la voie de chemin de fer. Trois mois plus tard, le verdict tombe dans ce procès de l'horreur. Il est sans nuance, Fofana, capable des pires inhumanités, est condamné à la peine maximale, la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. De leur côté, 23 de ses principaux complices sont également condamnés à de lourdes peines. Certains feront appel, tout comme le parquet sur sollicitation de la garde des Sceaux, comme si finalement il n'y avait pas de verdict suffisamment lourd pour condamner les auteurs de cet acte abominable. Mais de ce procès, au-delà des faits et des responsabilités, on retient aussi les révélations sur les faillites de notre société, hyperviolence des bandes, cité déshumanisée, culture de la haine, banalisation de l'antisémitisme. Aujourd'hui et chaque jour, sans le savoir, ce sont des dizaines d'enfants et d'autres plus grands qui foulent ce jardin du 12e arrondissement de Paris, qui porte désormais son nom, celui d'Ilan Halimi, victime de l'antisémitisme, de la haine et des préjugés en France en 2006. Thank you.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le drame d'Ilan Halimi, notre invitée Caroline Toby, avocate pénaliste. Bonjour.
Bonjour Fabrice.
Vous avez défendu donc Ruth Halimi, la mère d'Ilan. Vous témoignez de votre expérience dans le livre de Julia Minkowski et de Lisa Vignoli, L'avocate était une femme, le procès de leur vie. On y reviendra. Vous avez été membre du Conseil de l'Ordre des avocats et du comité directeur de l'Association des avocats pénalistes, l'ADAP. Vous êtes une spécialiste de droit pénal, bien sûr. Associée fondatrice du cabinet Stas, vous co-dirigez le pôle contentieux pénal aux côtés de Francis Spinner, votre associé historique, hein, et Vincent Nioret, qui lui est vice-bâtonnier de Paris. Alors, ce crime a profondément choqué les Français parce qu'il est abominable dans les faits et dans la motivation des criminels. Lors du procès, vous aviez, j'imagine, tout à fait conscience de l'impact de cette affaire sur la société. On n'est pas dans un dossier de droit commun, si je veux dire, un crime de jalousie, voisinage, passionnel, c'est beaucoup plus que ça. Or, tout ce qui s'est dit dans le prétoire, c'est dit à l'intérieur de la salle, parce qu'il y avait le huis clos. Ça, c'est un vrai problème. Ça a été un vrai problème. Est-ce que vous le regrettez encore?
Oui, tout à fait. Vous savez, Fabrice, j'ai aujourd'hui presque 30 ans d'expérience, et je crois que c'est le procès qui a le plus marqué ma vie professionnelle. D'abord, de par la gravité, la cruauté des faits que vous avez rappelés, mais aussi parce que ce procès, il s'est tenu pendant à deux reprises, pendant 3 mois, de 9h du matin à 10h du soir, tous les jours. Tous les jours, nous étions aux côtés de Ruth, mais également de ses filles, c'est-à-dire des sœurs de Ilan Halimi, en face des 24 accusés. C'était une tension incroyable. Et voilà. Et c'est vrai que le huis clos, c'est un peu un échec. Nous l'avons vécu un peu comme un échec parce que nous voulions, nous, une audience publique. Nous voulions une audience publique parce que nous considérions que ce procès devait s'apprécier dans sa globalité. Aujourd'hui, on se souvient évidemment de cette affaire et on se souvient que le gang des barbares, les 24 accusés, ont été tous condamnés à des peines de prison plus ou moins sévères. Mais moi, je pense que ce sont les détails de ce procès qui ont manqué peut-être au niveau des médias et au niveau de la médiatisation.
Bah parce qu'on n'y était pas, évidemment.
Voilà, exactement.
Quel genre de détails, par exemple? À quoi vous pensez?
Je pense, et moi ce sont les détails qui me reviennent régulièrement à chaque fois que je pense à cette affaire. Les détails, c'est les conditions de détention et de séquestration d'Ilan Halimi. Vous en avez rappelé quelques-unes. Je pourrais citer l'appartement sans lumière, sans gaz, sans eau chaude, dans lequel il a été séquestré pendant 24 jours, alors que cet appartement non chauffé, nous étions au mois de février, il faisait moins 4 degrés. Je pourrais rappeler aussi la nourriture, c'est-à-dire des protéines qui étaient données avec une paille, les vêtements d'Ilan Halimi qui ont été coupés le premier jour au ciseau. Dès le premier jour, je pourrais rappeler ses besoins qui devaient être faits dans des sacs poubelles. Et si ça n'était pas le cas, il y avait des violences gratuites, un coup de cutter, voilà, il y a plein de détails comme ça.
C'est
ça,
un millefeuille d'éléments qui montrent qu'il y a, au-delà de récupérer de l'argent, une volonté de faire mal.
Une volonté de faire mal et surtout de traiter Ilan Halimi comme pas comme un humain, comme un objet.
C'est ça.
Voilà. Certains s'exprimaient en disant l'autre, c'est-à-dire qu'il était totalement, mais on y reviendra, il était totalement déshumanisé. Voilà. Donc la violence était sans limite, finalement. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que ces détails, moi je me les rappelle régulièrement, et voilà, c'est pour ça que le huis clos, on le regrette beaucoup.
Vous le regrettez d'autant plus que ça n'a pas pu être aussi le procès de l'antisémitisme qu'il aurait pu être si la tribune avait été publique ou si les journalistes avaient pu faire des comptes rendus comme dans un procès classique, et cette polémique soulevée par ceux qui ont dit mais non, ça n'est pas antisémite, donc qui ont entretenu le déni, hein, c'est une sorte de déni, ça en a ajouté, j'imagine, au malaise.
Oui, c'est vrai, vous avez entièrement raison, et c'est vrai que dans cette affaire, beaucoup de gens ont au départ contesté le caractère antisémite. Ilan Halimi a été victime d'un préjugé. Ce préjugé, c'est les Juifs ont de l'argent.
Et ils sont solidaires.
Et ils sont solidaires parce que si la famille d'Ilan Halimi n'a pas d'argent ou pas assez, eh bien la communauté paiera. Et ben, c'est précisément ce préjugé qui est antisémite.
Complètement.
Et ça a été, ça aussi, un combat pour le faire admettre, parce que ça n'était pas évident au départ.
Et on a trouvé aussi on le disait dans le récit, des objets, des références djihadistes également.
Tout à fait.
Donc on a l'antisémitisme, j'allais dire, je fais attention au mot, parce que c'est de base, les Juifs ont de l'argent, donc ils vont payer, et puis on a un antisémitisme politique également.
Exactement, je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire.
Que pensez-vous de la dernière enquête? Alors ça c'est en écho à ce qu'on vient de dire, publiée cette semaine sur le sujet, qui montre que les Juifs de France ont été plus d'un sur deux insultés en raison de leur appartenance religieuse ou culturelle, que certains Juifs de France disent à leurs enfants, bah, n'allez pas là, n'allez pas ici. On est en 2021, on parle d'une affaire qui remonte à 2006 et on en est toujours là.
Oui, ce sont des chiffres qui font peur quand même. Ce sont des chiffres qui font peur et comme vous dites, on est en 2021 et on est en France. Et qu'aujourd'hui en France, on soit obligé de dire à nos enfants, ne portez pas de signes religieux parce que c'est dangereux, n'allez pas à tel endroit parce que c'est dangereux, eh bien c'est terrible. C'est terrible. D'abord, on voit bien que l'antisémitisme a changé de nature, hein, et puis depuis cette affaire qui a été quand même révélée que l'antisémitisme avait changé de nature. Mais c'est vrai que, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience. Comment elle se fait, la prise de conscience? Eh bien, peut-être par la médiatisation de plus en plus de ce genre d'affaires.
Et aussi par un procès qui ne serait pas huis clos, par exemple.
Exactement, par un procès qui ne serait pas à huis clos. Et peut-être qu'il faut aussi une réponse judiciaire plus ferme et plus radicale, plus efficace. Pourquoi je dis ça? On voit bien, alors je vais citer Alain Soral, mais il y en a d'autres, qui font l'objet de plusieurs condamnations sans aller un jour en prison, parce que quand vous déposez plainte, les infractions antisémites aujourd'hui sont sous le coup de la loi de la presse, ça veut dire qu'avant d'être jugé, il se passe 2 ans. Je sais pas, si par exemple, je réfléchis à voix haute, nous pouvions aujourd'hui procéder à des gardes à vue en flagrant délit, et puis à des déferments en comparution immédiate pour ce genre d'infraction qui permettrait de prononcer des peines de prison ferme dès le départ, peut-être que ça aurait un aspect un peu plus... Voilà.
Renforcer le côté délictuel d'une parole, ne serait-ce qu'une parole. Hein.
Il faut peut-être réfléchir à une réponse judiciaire plus radicale, oui.
Dans le livre « L'avocat était une femme », au tout début du chapitre consacré à votre témoignage, vous dites « Chez moi, le procès Ilan Halimi » nous a tous abîmés. Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que j'imagine, évidemment, je ne suis pas surpris que toutes les personnes, les professionnels de la justice qui ont participé à ce procès, je ne suis pas surpris qu'ils en aient été marqués, évidemment. On ne ressort pas un homme d'une chose comme ça. Mais vous dites, le procès Ilan Halimi nous a tous abîmés.
Oh, je pense que j'ai été tellement impliquée professionnellement, bien sûr, mais également émotionnellement dans cette affaire, comme je vous dis, qui a duré pendant le premier procès 3 mois, tous les jours, pendant 10-12 heures par jour, en face des 24 accusés. À un moment donné, je pense que j'ai manqué peut-être du recul nécessaire. Vous savez, je rentrais chez moi, on mélange tout. Moi, j'ai un fils qui s'appelle Ilan, je rentrais chez moi, évidemment je me jetais dans ses bras, c'est un peu irrationnel, mais c'est ça que je voulais raconter aussi, c'est qu'à un moment donné, voilà, c'est vrai que il nous a abîmés parce que je le portais toute la journée, je le portais le week-end, la nuit, voilà. Ça a été vraiment quelque chose de très marquant.
J'imagine. Aisément. On va se retrouver dans 3 minutes, après avoir écouté Au Clou et Pomme Galore. Caroline Toby, vous défendiez donc la mère de la victime, Ruth Halimi. Alors, le procès a été quelque chose de dur, enfin, qui vous a secoué, hein, vous l'avez dit. Est-ce qu'il y a un moment plus marquant que les autres dans ces jours de procès, pour vous? Peut-être le souvenir qui vous vient à l'esprit immédiatement?
Écoutez, celui qui me vient à l'esprit, c'est le souvenir de, pendant le procès, à un moment donné, la présidente décide de passer à l'audience un enregistrement, qui est l'enregistrement d'Ilan Halimi, en réalité, au bout de 10 jours de séquestration, son ravisseur va téléphoner à sa mère, à Ruth, pour lui passer son fils. Et il y a cet enregistrement où on entend Ilan Halimi implorer sa mère de le sortir de là. Et je crois que ça a été un des moments les plus...
Déchirants.
Voilà, déchirants. Oui, ouais. Oui, oui.
Bien sûr. Si vous vous présentez un dossier comme celui-là, aussi difficile à défendre, que feriez-vous aujourd'hui?
Si je quoi?
Si on vous présentait un dossier similaire.
Oui.
Et à défendre?
Je crois que je ferai pareil. Parce que finalement, je suis comme ça. Et je crois que ma façon à moi de porter de porter un dossier, de porter une défense, c'est d'y mettre, c'est d'y mettre, également mon affect. Et finalement, c'est un moteur. Voilà.
Bon. Alors, le livre parle des avocates. Je me souviens d'un temps pas si lointain où il y avait des cartes de visite d'avocates. C'était madame, un tel, avocat à la cour. Mmh. Bon, j'imagine que ça a changé, j'espère. Comment, en tant que femme avocate, comment on s'inclut dans le barreau? Enfin, je vais être plus simple. Qu'est-ce que ça change dans l'exercice du métier avocate plutôt qu'avocat?
Je vais avoir du mal à vous répondre à cette question. Moi, j'ai prêté serment en 93 et je crois que les choses ont beaucoup évolué quand même. C'est-à-dire qu'en 93, c'était un sujet. Et c'est vrai que quand je débarquais dans une prison pour défendre, voilà, pour me présenter auprès d'un client, ben on me regardait peut-être un peu de travers, on avait peut-être un peu moins confiance. Est-ce que c'était parce que j'étais une femme? Est-ce que c'était parce que j'avais peu d'expérience? En tout cas,
ou
ça aussi,
deux.
Ou les deux, exactement. En tout cas, ça aussi, ça a été un moteur pour bah, pour montrer que bah, qu'une avocate femme pouvait parfaitement réussir, pouvait parfaitement défendre. Et je pense qu'aujourd'hui, bah, il y a beaucoup de femmes pénalistes qui réussissent, qui font ce métier, qui le font avec passion. Et moi, j'ai l'espoir de penser que ça n'est plus un sujet.
Mmh.
Voilà.
Faut inventer un mot maintenant. Ténor au féminin, ça fait quoi? T-E-N-O-R.
Ouais, ténor au féminin,
avec
exactement.
Un e. Bien. Dernière question. Aujourd'hui, vous défendez, il vous arrive de défendre des avocats.
Oui.
Dans quel cadre? Comment ça se passe? Et...
ben,
c'est étonnant,
c'est...
ce jeu de miroir quand même.
Ouais.
Cette mise en abîme.
Ouais,
ici.
Ouais. Je défends aujourd'hui beaucoup de mes pairs. En fait, voilà,
ah oui,
exactement.
C'est ça, hein.
Alors, c'est soit dans le cadre de procédures disciplinaires, c'est-à-dire devant le Conseil de l'Ordre, statuant en audience disciplinaire, mais ça peut être aussi au pénal, parce que ben la voilà, il y a des confrères aujourd'hui, et c'est vrai qu'il y en a de plus en plus qui sont poursuivis pénalement pour des faits, et je voilà. Bon. Comment ça se passe? Eh ben, ça se passe comme pour un autre dossier où mon client n'est pas forcément un avocat, c'est-à-dire que voilà, c'est une défense, voilà.
C'est comme un dentiste qui se forme une dent, quoi.
Ouais. Ou qui enlève une dent à un autre dentiste.
Qui enlève une dent. Mais c'est ça, un autre dentiste. Voilà, c'était pour finir sur une note un peu légère, parce que l'histoire que nous avons racontée est évidemment éminemment très très dure. C'est, je comprends que ça soit pour vous très marquant. Et d'ailleurs, dans Affaires Sensibles, c'est probablement l'une des histoires les plus marquantes qu'on ait racontées. Merci infiniment.
Merci à vous de m'avoir invité.
Je vous en prie. Au revoir.
Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Ilan Halimi, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Clément Berman. Et puisque nous sommes vendredi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Recherche, documentaire, écriture, Julienne Proutot, Héloïse Rambert, Judith Chétrit, Adrien Cara, attaché de production Rebecca Denande, programmation musicale Valentine Chaudebois, lecture Sonia Mella, Cécile Ribocaillol, Claude Ascolovitch, Eric Oswald, Aurélien Labrouillère et Philippe Pierrard, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay, Flora Bernard et Stéphane Combe.